I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tout au long de sa vie, l'écrivain Nicolas Bouvier a fait du voyage le moteur de sa littérature. Il en donne ainsi sa perception dans un texte court et très beau, Le poisson scorpion. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes, comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels. Sortir de soi, se vider entièrement pour réinventer ce que l'on est et pour aimer ce qui reste. Telle est la raison du voyage chez Nicolas Bouvier. Dans cet épisode, l'écrivaine Samantha Bailly interroge les liens entre le voyage et l'espace domestique, entre la mobilité et la sédentarité. Notre invitée est donc une voyageuse, elle qui circule entre les genres grâce à l'écriture et qui s'inspire de la fantasy comme du conte, du jeu vidéo, comme des mangas. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Je suis dans mon bureau. Mon bureau, c'est vraiment un espace très précieux pour moi. C'est un petit bureau qui se trouve du coup dans l'appartement dans lequel je vis. C'est un bureau très blanc, très lumineux, avec une bibliothèque, beaucoup de tiroirs, beaucoup de carnets, beaucoup de petits bidules et de petits machins, juste que j'aime bien, que je trouve jolis et qui, voilà, me donnent une sensation de chaleur, une sensation d'être bien dans cette pièce. Et c'est un endroit que je chéris tout particulièrement, dans lequel je passe de l'ordre au désordre, c'est-à-dire que je passe mon temps à le ranger et après à laisser le bazar s'installer et à le re-ranger. Et en général, quand je prends la décision de ranger le bureau, c'est vraiment le signe que je me sens bien et que j'ai envie de me mettre à travailler. Mon bureau, c'est un endroit dans lequel je suis seule. D'ailleurs, c'est un endroit dans lequel mon mari ne rentre jamais. C'est vraiment la chambre à soi, quoi. Il n'y a pas à dire. Ça s'est fait naturellement, en fait. C'est vraiment mon petit espace dans l'appartement dans lequel je me retrouve et où il y a essentiellement mes affaires, d'ailleurs, que ce soit des livres, que ce soit des plantes, que ce soit après des bijoux, des choses qui m'appartiennent vraiment, qui sont des choses assez intimes. Et c'est mon petit endroit de repli magique. Alors, ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle est justement dans mon bureau. Donc, elle est juste à côté de moi, là où je me trouve. C'est une bibliothèque qui n'est pas très grande en réalité, parce que vous savez que les espaces en région parisienne ne nous permettent pas d'avoir des centaines de mètres carrés, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Donc moi, mon petit bureau doit faire 10 mètres carrés et c'est une petite bibliothèque blanche, assez étroite, dans laquelle en réalité il y a assez peu de place. Donc quand j'ai fait le choix des livres de cette bibliothèque, j'ai vraiment dû me séparer d'énormément de livres que j'ai rangés dans des placards ou ailleurs ou à la cave. Et j'ai vraiment gardé essentiellement les livres importants pour moi dans cet espace-là. C'est-à-dire des ouvrages que j'ai envie de relire, des ouvrages qui ont pu changer ma vie ou qui ont pu influencer ma trajectoire personnelle. Et pour la classification, il y a des choses différentes, en fait. C'est pas un rangement très comment dire, précis. C'est plutôt par thématique. La fiction d'un côté, les essais de l'autre. Et puis un petit mélange aussi dans les tonalités des ouvrages ou des périodes pendant lesquelles je les ai découverts. Mais c'est tous des livres chouchous. Et il y a une étagère particulière qui est celle de mes propres livres, parce que je me suis toujours dit que, bon, déjà, fallait les mettre quelque part, et que quand j'écris dans mon bureau, j'aime bien me tourner, en fait, vers cette étagère, et me souvenir que j'ai déjà écrit tout ça, en fait. À chaque fois que j'ai un blocage, ou que j'ai des doutes, et que je vois l'étagère avec la vingtaine d'ouvrages que j'ai déjà publiés, bon, sans parler en plus des rééditions et de tous les autres formats qui viennent du coup agrémenter ça, je me dis, bon, si j'ai été capable d'écrire, je devrais de nouveau l'être. Et voilà, c'est toujours un petit rappel, une petite pulsation comme ça qui est très agréable à ce niveau et qui me permet à chaque fois de me souvenir du chemin qui est déjà parcouru, entre guillemets. Alors, le dernier livre que j'ai sorti de la bibliothèque, c'était « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Le livre que je ne cesse de ranger et de sortir en permanence. Je l'ai sorti parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de le relire. C'est un livre très, très annoté, griffonné, enfin, qui a du vécu, quoi. Et par moments, je le range, et puis par moments, il reste sur ma table de chevet. Et puis, je le re-range, et puis je le remets sur ma table de chevet, en fonction des périodes. Et en ce moment, je me sens dans une période de ma vie où j'adore relire ce livre, j'adore picorer dans des chapitres. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est un essai absolument formidable qui mêle à la fois de la psychanalyse, des contes, de la poésie. C'est vraiment extrêmement brillant et c'est finalement un retour en arrière, une réflexion sur tout un tas de récits de femmes qui nous mettent face à notre propre féminité, aux questionnements qu'on peut avoir sur notre féminité et notre rapport au fait d'être une femme dans cette société aujourd'hui et dans toutes les sociétés, parce qu'il y a aussi un versant très anthropologique, ethnologique dans Femmes qui courent avec les loups, puisque ce sont des récits de cultures extrêmement variées et différentes. Et du coup, voilà, c'est le dernier que j'ai sorti. Et le dernier que j'ai mis, du coup, c'était un des miens en réalité. C'était, pour le coup, c'était parce que j'ai reçu mes exemplaires presse de C'est pas ma faute, le petit dernier né qu'on a écrit avec Anne-Fleur Multon chez Pocket. Et du coup, ça, c'est un moment toujours un peu particulier ou solennel ou je sais pas, ou émouvant. C'est le moment où on reçoit ces exemplaires d'auteurs et on se dit, bon, il va falloir les ranger. Et puis on prend un exemplaire et là, on le range dans la bibliothèque. Et du coup, voilà, ça, c'est le dernier que j'ai fait rentrer, entre guillemets, du coup. C'est un des miens. Alors, le livre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » de Mona Chollet. C'est un essai. Un essai tout à fait conforme à ce qu'on connaît de Mona Chollet, si vous connaissez cette autrice. C'est-à-dire que c'est d'une très grande exigence intellectuelle, mais c'est plein de sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, Mona Chollet explore la thématique de la maison, du rapport à chez soi, du rapport à l'espace domestique, par tout un tas de chapitres où elle va évoquer des sujets de sociologie, des sujets d'écologie, des sujets de société, et en même temps parler de son propre rapport, elle, personnel à son espace domestique et au fait qu'elle est finalement une personne assez casanière et que le fait d'être casanier n'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler dans la société ou qui soit très valorisé. La première fois que je l'ai lu, c'était il y a des années. Et en fait, je crois que c'est parce qu'elle avait partagé une version gratuite en ligne. Et j'ai jeté un œil, j'ai lu, je sais pas, 4 premières phrases et je me suis dit, mais j'adore. J'adore, en fait, j'ai jamais lu sur le sujet, mais bien sûr, ça m'intéresse. Du coup, je l'ai acheté. Et ça m'a vraiment happée. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est tellement important, le sujet de sa maison. Et du coup, avec le confinement, on s'est beaucoup plus interrogé sur ces questions ces derniers temps, mais le logement, c'est finalement un des points vitaux de l'être humain les plus importants. C'est-à-dire, où est-ce que je trouve refuge? Où est-ce que je suis chez moi? Où est-ce que je suis à l'abri? Où est-ce que à la fois je peux mettre ce qui m'appartient, mais en même temps où je peux trouver du repos, où je peux trouver la sérénité, où je peux me cacher. Et c'est vrai que tout au long de ma lecture, je me disais, c'est des sujets tellement importants, que ce soit du point de vue de sa propre expérience de vie, du rapport au chez-soi, parce que bah, d'abord, a priori, on est en tout cas dans le cocon familial, et puis il y a le moment où on construit, on bâtit son propre chez-soi. Et donc, la façon de le bâtir est évidemment liée à l'endroit d'où l'on vient, et socialement, évidemment, aux moyens que l'on a ou non. Je sais pas si on peut dire que je suis une personne casanière. Je crois que j'ai beaucoup d'extraversion. J'adore sortir, j'adore voir du monde. J'aime être à l'extérieur. Mais c'est vrai que il y a un moment où j'ai toujours besoin de repli. J'ai toujours besoin de repli et de rentrer à la maison. Je trouve qu'il n'y a rien de plus doux que de rentrer chez soi quand on s'y sent bien. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Cet été, je vais avoir mon petit bébé, là bientôt, dans quelques semaines. Donc ça va être un rapport intéressant à l'espace domestique et à la maison, parce que je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. J'ai eu la chance, en fait, ça va bientôt faire un an, de faire un très long voyage de 3 mois autour du monde, qui a été une expérience justement de nomadisme, d'extraversion, de déplacement continu, très très forte, du Canada en passant par les États-Unis jusqu'au Japon. Et après, il y a eu le confinement, donc c'est intéressant parce que j'ai vraiment vécu une période très intensive de mouvement, d'extraversion permanente, d'aller d'un point à l'autre, d'une ville à l'autre, de changer d'endroit tous les 2 jours, de vivre dans un van, de faire plein d'expériences aussi de logements assez insolites à travers le monde. Et puis après, de rentrer chez soi et de se retrouver en pleine crise sanitaire et du coup... de ne plus bouger de chez soi, parce que pour le coup, j'ai vraiment, moi, joué à fond les règles du confinement. Je n'ai vraiment que très, 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 très peu bougé. Et donc, du coup, cet été, pas de départ, pas de voyage, pas de déplacement. C'est plutôt la maison et la préparation du nid pour le bébé. Je pense que la lecture de chez soi m'a fait changer mon rapport à mon propre intérieur, à ma maison, mais aussi au voyage, c'est-à-dire je crois que ça fait partie des livres qui m'ont décidé aussi à faire cette parenthèse et ce grand voyage de 3 mois, parce que quelque part, à travers l'expérience de Mona Chollet, la façon dont elle le livre, quand elle parle justement de sa peur du voyage, ben je m'y retrouvais pas, dans le sens où ça m'a fait un effet contraste, où moi je me dis, mais en fait ça fait des années que je me disais, j'ai ce métier qui est incroyable, qui est passionnant, qui est dur, qui est complexe, mais qui est censé avoir un avantage, c'est la liberté. Quand vous êtes autrice, quand vous êtes créatrice, tout le monde pense que vous avez une liberté absolue, sans contrainte, que vous êtes chez vous, que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, vous déplacer, partir, que rien ne vous retient. Et en réalité, en 10 ans de carrière, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, que pour faire ce métier, et le rythme de la création et l'industrie plus générale du livre faisait que finalement je vivais criblée d'impératifs qui n'étaient pas forcément lisibles de l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, là, c'est le moment. C'est le moment de m'octroyer cette vie de nomadisme pendant plusieurs mois, de laisser l'appartement, de tout laisser derrière soi et de vivre cette vie en mouvement. C'est-à-dire cette vie où on pense qu'on est privé de chez soi. Mais en réalité, j'ai découvert par ce voyage, et je pensais du coup souvent à cet essai de Mona Chollet pendant le voyage, chaque jour, le défi, c'était de se refaire une maison, quoi. Que ce soit dans un van pendant 3 semaines où on traverse une partie des États-Unis, que ce soit dans une petite chambre d'hôtel à un moment, ou dans un petit cabanon, ou dans une hutte. Enfin, on a vécu pas mal de camping et de choses très différentes dans le logement, justement. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ça m'a fait relativiser ma vision de ce qu'était chez moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que d'abord chez moi, c'était avec l'homme que j'aime et que on pouvait être un peu n'importe où ensemble. En fait, étrangement, notre appartement, notre petite maison nous manquait pas tant que ça, alors que quand même, on l'a bâti avec beaucoup d'attention et que ça fait... Voilà, elle est vraiment... vraiment dans nos vies comme un espace qui nous a permis aussi de conjuguer les choses à deux et en ça compte beaucoup pour nous. Et je me suis aussi rendu compte que de nos capacités d'adaptation finalement, de cette idée que chaque jour on pouvait être dans quelque chose de nouveau, de changeant, mais qu'on allait se trouver un moyen pour se sentir à la maison le soir. Et du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir à cet essai que j'ai lu qui m'a accompagnée et où finalement, après, quand on est rentré et qu'il y a eu le confinement, j'ai eu des sensations, ça peut paraître très paradoxal, mais assez similaires à ce voyage. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu énormément de choses, d'avoir été dans un temps suspendu. Et pendant le confinement, alors que j'étais à la maison, je veux dire, j'étais de manière fixe dans les mêmes 60 mètres carrés, j'ai quand même eu l'impression de vivre énormément de choses dans mon monde intérieur, dans mon couple, dans ma vie personnelle, dans mes réflexions, dans mon travail. Et donc, j'ai l'impression que ces suspensions, qu'elles soient dans le mouvement où on reste bloqué, on bouge plus, quelque part, c'est deux formes de voyage différentes, mais qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Je pense que le rapport à chez soi, oui, change quand on écrit. Parce que l'écriture est quand même un acte profondément intime et introspectif. Et après, il y a aussi toute une mythologie autour de ça que j'aime bien déconstruire parce que j'adore écrire dans mon bureau, loin de tout, enfermée comme une ermite. Et en même temps, j'ai aucun problème à écrire dans un train bondé avec des enfants qui crient ou alors d'écrire sur une terrasse de café où il y a du brouhaha, du mouvement. Je me mets dans ma bulle automatiquement. J'ai pas forcément besoin de silence. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a, un peu un mythe de l'auteur dans son silence absolu avec ses rituels. Et parfois, l'écriture, c'est pas ça, quoi. Parfois, l'écriture, c'est en plein dans la vie et c'est pas juste isolé dans son bureau, dans son petit chez-soi. Mais ce que je trouve, par contre, c'est que c'est quand même très salvateur d'avoir un endroit où on peut écrire. J'ai eu la chance de pouvoir me marier pendant le confinement, mais une chance, bon, bref, complètement fortuite et extraordinaire. C'est pas du tout le mariage qu'on voulait parce que, en fait, on voulait faire une fête, quoi. Et il se trouve que on a eu l'opportunité quand même de se marier et du coup, bah, on l'a fait tous les deux avec nos deux témoins. Et rien n'était comme ce qu'on avait pensé, prévu ou convenu. Puisqu'on se retrouvait d'un potentiel mariage avec plein d'amis et la famille, à se marier dans le cadre le plus intime qu'on puisse imaginer. Et on est rentré chez nous, en fait, après s'être mariés, comme ça, voilà, à la mairie, rapidement, dans des conditions quand même très particulières. Et on s'est fait à manger avec nos deux témoins, on a discuté. Et je sais pas, ça reste un souvenir de bonheur absolu et de douceur très très fort, de se dire c'est pas du tout le plan, c'était pas du tout le plan, c'était pas du tout comme ça qu'on imaginait, mais finalement, du coup, tout était tellement simple et tellement doux que voilà, quand on est rentré dans notre petit cocon, dans notre petit chez-nous, et qu'on venait simplement de se marier, qu'on était juste avec les premières personnes qu'on voyait depuis le mois de mars, quoi, il y avait quelque chose de vraiment... ouais, d'un amour profond. Et cet endroit, cet appartement apparaissait plus protecteur et plus joyeux que jamais. Je crois que ça va peut-être faire partie des souvenirs les plus marquants qu'on aura dans cet appartement.
Vous venez d'écouter Samantha Bailly à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande l'essai de Mona Chollet, « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », paru aux éditions Zone. Samantha Bailly est autrice, scénariste et vidéaste. Son dernier livre, coécrit avec Anne-Fleur Multon, « C'est pas ma faute », est paru chez Pocket Jeunesse cette année. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si un ami ou une amie vous demande des conseils de lecture pour l'été, n'hésitez pas à conseiller le Book Club autour de vous. Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.